La bienvenue à tous ceux qui sont ici pour la première fois. Que Dieu vous bénisse au milieu de nous. Que vous partiez d'ici le cœur plein. Avant de vous donner le verset ce matin, j'aimerais vous raconter un incident qui m'est arrivé peu de temps après avoir fait mes études. J'ai, pendant mes études, entendu parler d'une mission parmi les naufragés de la société, les ivrognes, à Chicago. L'endroit s'appelait le Pacific Garden Mission. Et là, c'est étonnant le nombre de personnes qui fréquentaient ce local, cette mission, des hommes, des ivrognes, des gens qui refusaient par la société. Et parmi eux, il y avait des docteurs, des avocats, des gens de haute société qui, abattus par l'alcool, se trouvaient là. Je me rappelle d'un docteur, médecin, qui avait perdu donc sa place comme médecin, sa place dans la société, sa famille même. Sa femme l'a quitté, il était là. Mais il a entendu le message de l'Évangile. Et il a été touché vivement dans son cœur, à tel point qu'après la réunion, il a accepté le Seigneur. Pour raccourcir l'histoire, peu à peu, il a retrouvé tout ce qu'il avait perdu. Sa femme, sa famille. Il est devenu médecin de nouveau. Il a gagné sa place dans la société. Voilà ce que Christ peut faire. Alors, quand j'ai fini mes études, je me trouvais à Chicago. Alors là, j'ai dit, voilà, il faut que je voie cet endroit dont j'ai entendu parler tant. Alors, entrant, j'ai trouvé le local plus grand que celui-ci, mais bourré d'hommes. Alors, j'ai trouvé quand même une place et j'ai entendu le message, qui était médiocre, mais quand même qui présentait l'Évangile. Après quoi, il avait donné un appel. Et tout d'un coup, j'ai vu un jeune homme qui se lève et qui est parti et qui a mis son bras autour de l'épaule de quelqu'un. Les deux se sont partis derrière et là, il a prié avec lui. Peu de temps après, il est sorti. Je l'ai vu. Il est allé vers un autre. Il a mis son bras autour et les deux sont partis derrière. Alors, voyant ça, moi qui ai fini mes études et qui était censé être un gagneur d'âme, alors j'ai touché la personne devant moi. Je dis, est-ce que vous voulez que je vous accompagne pour accepter le Seigneur? Non, 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 il a dit non. Alors, j'ai reculé et j'ai attendu un moment. Le prédicateur, il est encore donné l'appel. Et puis, le jeune homme, il sort de nouveau. Et cette fois-ci, il se dirige et il est venu carrément à l'homme que je venais de parler. Il met ses bras autour de son épaule, dit quelques mots, et les deux sont partis. Qu'est-ce qu'il a, ce gars-là? Il faut que je sache où il a fait ses études. Alors, pour gagner des âmes comme ça, c'était extraordinaire. Après la réunion, j'ai attendu un moment que tout le monde soit sorti. Il est sorti de derrière. Il se mettait à la porte aussi. Je suis sorti. Et il m'a pris par la main. Il a dit, « Oh, combien c'est merveilleux d'être sauvé, n'est-ce pas? Le Seigneur m'a sauvé la semaine dernière. » Quand il m'a dit, « Le Seigneur m'a sauvé la semaine dernière », il aurait pu me donner un coup de poing. Alors, j'étais frappé. Alors, je lui ai dit quelque chose, je ne sais pas quoi, bonsoir. Et j'ai voulu être dehors le plus tôt possible pour être avec Dieu. J'ai marché dans la rue qui s'appelle Canal. Alors, j'ai pensé, il a gagné 3 âmes là ce soir. Sauvé la semaine dernière. J'ai appris quelque chose tout de suite. Ce n'est pas ce qu'on a ici dans la tête, tellement. C'est ce qu'on a dans le cœur. Si on a une passion pour les hommes, celui qui sème avec larmes revient avec chant d'allégresse. quand on prie pour les âmes jusqu'à les pleurs, hein, jusqu'aux larmes, alors là, quand on parle, ça touche des cœurs. J'ai appris beaucoup de cet homme-là. Et combien de personnes en plus a-t-il gagné? Après tout, il était sauvé toute une semaine. Hein? Alors, il aurait pu gagner beaucoup d'autres. Combien de personnes ont passé des années sans gagner une seule personne? La raison pour laquelle je raconte cela, c'est que beaucoup hésitent de parler parce que vous ne connaissez pas la Bible à fond, vous ne connaissez pas toutes les doctrines, vous avez peur de ce que la personne va vous demander. Écoutez, il faut être comme l'aveugle qui dit, voilà, ça je ne sais pas. Une chose je sais, j'étais aveugle, mais maintenant je vois. Vous pouvez toujours dire, tout simplement, un jour j'ai ouvert mon cœur et Christ est entré. Il m'a purifié, il m'a lavé, il m'a donné la vie éternelle. Ça, vous pouvez faire. Et chacun de nous doit avoir une fois dans sa vie la joie de gagner une âme pour Christ avant de partir. Et d'avoir quelqu'un à présenter à Jésus quand vous le voyez face à face. Dites-lui ce qui s'est passé dans votre cœur afin que vous aussi, vous puissiez être un gagneur d'âme, aller à la pêche. Mon texte ce matin se trouve en Luc 18, verset 8. Deuxième partie. Deuxième partie dit, « Mais lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» On apprend ici qu'il va revenir le Fils de l'homme. Et tout ce qu'on voit aujourd'hui indique que sa venue est proche. Nous n'avons pas beaucoup de temps à attendre avant qu'il soit là. Avant que la trompette sonne, la voix de l'archange parle, monte, et nous allons quitter. Parce que le monde est à la dérive. Et on peut constater qu'il y a très peu de foi sur terre aujourd'hui. Dans tous les sens du mot. Vous savez, le mot foi dans la Bible ne se trouve pas dans l'Ancien Testament, sauf une seule fois. En Habacuc, chapitre 2, verset 4, nous lisons « Le juste vivra par la foi. » Parce que l'Ancien Testament n'est pas le message de la foi, mais le message de l'obéissance. Les 10 commandements, obéissez, les principes, mais obéir. Mais le Nouveau Testament, c'est la foi. Dès que Christ a commencé, il a parlé de la foi. Si vous avez la foi, comme un petit grain de sénévé, vous transporterez des montagnes. Il parlait constamment de la foi. La foi n'est pas venue pour remplacer l'obéissance, mais d'être avec l'obéissance. Donc, on a la foi maintenant et l'obéissance. D'où vient le cantique? Croire, obéir. Croire, c'est la foi. Nouveau Testament, obéir, l'Ancien Testament. Mettez les deux ensemble si vous voulez avoir une vie joyeuse, merveilleuse avec le Seigneur. Alors, les trois sens du mot foi sont les suivants. Le premier sens, c'est ça englobe toute la révélation du Nouveau Testament, tel qu'il a été donné à l'apôtre Paul sur la montagne de Sinaï. Nous lisons dans l'épître de Paul en Timothée, quand il est juste avant de mourir, « J'ai gardé la foi ». Quand il a dit « J'ai gardé la foi », il voulait dire « Il gardait ». Tout ce que Dieu lui a confié, ce message de l'évangile, de la mort, la résurrection, l'ascension et sa venue de nouveau sur terre. Voilà le message, la foi. Et la foi est attaquée aujourd'hui, de tous les côtés, par les athées, par les philosophes, par les sectes, par les fausses doctrines, par les hommes qui sont prêts à compromettre pour gagner. Compromettre le message de la parole de Dieu pour avoir du monde. Ils prêchent jamais qu'on doit être sauvé. Il y a une église, une petite église en Amérique de 34 000 personnes. C'est immense, c'est un stade, c'est un stade. Et je l'ai entendu, le pasteur là, prêcher dimanche après dimanche. Il ne parle jamais de la repentance, jamais de la croix de Christ, jamais du péché, jamais de se convertir, jamais. Il y a du monde, mais il compromet le message de Christ. Il y a très peu d'églises aujourd'hui qui prêchent fidèlement la parole. Et ça, pour tout, il faut que cette église reste ferme sur le fondement de la parole de Dieu, parce que c'est par elle qu'on est sauvé. Le deuxième sens du mot foi, c'est la foi qui sauve. Nous lisons en Éphésiens chapitre 2, verset 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que c'est la grâce qui nous sauve, la grâce de Dieu. On ne mérite pas d'être sauvé. On est pécheur. On est loin de Dieu. Mais Dieu nous aime quand même. Je crois que s'il y a un message qui doit être proclamé plus que jamais, c'est que malgré tout, Dieu nous aime à tel point qu'il a donné son Fils pour nous sauver. C'est la grâce de Dieu qui sauve par le moyen de la foi. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous connaissez les grandes écluses, ces grandes lames d'acier qui pèsent des tonnes, qui arrêtent de l'eau. Vous savez que de temps en temps, il faut les soulever. Vous savez qu'un petit garçon, si on lui montre comment ça se fait, pousser le bouton ou faire ce qu'il faut, il peut le faire. Il touche ça, lui, qui ne pourrait jamais soulever même un brin de ces grandes lames d'acier. Il touche ce bouton et tout d'un coup, tous les moteurs de cette grande écluse commencent à fonctionner. On entend le grondement et tout d'un coup, on voit ces lames qui se lèvent malgré les tonnes qui sont là. Ça, c'est la grâce de Dieu qui agit quand on appuie sur la foi. Ce n'est pas la foi qui sauve, c'est la grâce qui sauve par le moyen de la foi. C'est la foi qui met la grâce de Dieu en action. Mais ce n'est pas n'importe quoi, c'est la foi en Christ. Il y a des gens qui ont la foi, mais pas mal placés. Ils ne l'ont pas mis en Christ. Si nous croyons en lui, nous avons la vie éternelle. La grâce de Dieu est assez puissante pour changer un homme totalement, pour venir le convaincre du péché et transformer sa vie par le moyen de la foi. Ça, c'est le deuxième sens. Le troisième sens du mot foi, c'est celui, ça, justement, que je pense que Christ a voulu dire, tout en comprenant les deux autres. C'est que nous devons vivre par le principe de la foi. Le principe de la foi. Nous, l'Église de Christ, les vrais chrétiens dans l'Ouest, quand je dis l'Église, je ne veux pas dire notre assemblée ici, je veux dire toutes les églises où la parole de Dieu est prêchée. Alors, toutes ces églises-là s'éloignent de plus en plus du principe de la foi. Quel est l'ennemi de la foi? On voit très peu de grands miracles aujourd'hui. Pourquoi on ne voit pas de grands miracles? Manque de foi. Manque de foi. Qu'est-ce qui remplace donc la foi aujourd'hui dans le cœur des hommes? La raison humaine. On raisonne. Quand Dieu nous appelle à faire quelque chose, mais on commence à raisonner. Alors, c'est bon ce que Dieu demande, mais ce n'est pas moi qui peux le faire. Vous connaissez Moïse, qui avait toutes ses excuses? Oh oui, Seigneur, c'est une bonne idée que quelqu'un aille en Égypte, mais tu as frappé à mauvaise porte. C'est surtout pas moi. On est toujours prêt à faire des excuses. Raison humaine. Les églises se rencontrent. Ils discutent, ils décident. Est-ce qu'ils peuvent le faire ou non? Est-ce qu'on a assez d'argent pour le faire? Mais non, il ne faut pas faire quand même des bêtises. Attention, il ne faut pas aller plus loin que ce qu'on peut considérer comme nos capacités financières ou autres. La raison humaine. La raison humaine peut arrêter n'importe quoi. Dieu nous demande à faire, je ne suis pas capable, Seigneur, tu le sais. Je n'ai jamais fait ça. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne fait jamais quoi que ce soit sans qu'on puisse le faire soi-même. Et si on peut le faire soi-même, on n'a pas besoin de Dieu. Et parce qu'on n'a pas besoin de Dieu, on ne voit jamais Dieu agir. On voit uniquement l'homme agir. Et c'est ça le danger. Par exemple, quand les Israélites étaient là, en face des Palestiniens, et il y avait un Goliath, un grand géant, qui était là pour jeter un défi. Les soldats se sont rassemblés, se sont assis en disant, mais qui peut aller combattre cet homme? Mais il va nous cisailler comme à rien. Est-ce qu'ils avaient raison ou non? Oui, ils avaient raison. C'était logique, ils ne pouvaient pas combattre cet homme. Et puis tout d'un coup, il y a un garçon qui arrive, un jeune homme, il a dit, j'irai le battre. Il a lancé un défi. Qu'est-ce qui ne va pas avec la logique humaine? La logique humaine laisse en dehors de l'équation Dieu. On ne met jamais Dieu dans l'équation. On sait qu'on ne peut pas le faire, on n'a pas l'argent, on ne peut pas ça. Mais on ne dit, mais avec Dieu, on ne dit pas ça. On met Dieu dehors. Et parce que Dieu est dehors, rien ne se passe. C'est pour ça qu'on ne voit pas des miracles aujourd'hui. Dieu va vous donner quelque chose à faire que vous ne pouvez pas faire. Et puis, vous allez dire, Seigneur, je ne peux pas le faire, il faut que tu le fasses. C'est ça que Dieu veut. Il veut que vous lui dites ça. Je ne peux pas le faire, il faut que tu le fasses en moi. Amen. C'est à ce moment que Dieu commence à agir et que des miracles commencent à se produire. C'est ça, la vie avec Christ, c'est ça qui est merveilleux. On peut faire des choses merveilleusement bien. Ma vie, j'ai vu, le Seigneur m'appelle toujours à faire des choses que je ne peux pas faire. Absolument des choses impossibles. Et alors, chaque fois, bien sûr, j'hésite. Qui n'hésite pas quand c'est quelque chose d'impossible? Tout le monde fait un recul. Mais le Seigneur dit, non, vas-y, vas-y, vas-y. J'ai vu 5 grands miracles dans ma vie. J'en ai vu d'autres, pas mal d'autres, mais 5 grands miracles. Je n'ai pas le temps de vous raconter tous ces miracles, mais je vais vous raconter un. J'étais à Toulouse. J'avais loué un petit local qui était un coiffeur. J'ai transformé cela, j'ai mis des chaises, des pupitres, tout cela, j'ai commencé à prêcher. Mais peu de temps après, j'ai compris que la salle était trop petite, peut-être contenait 45 personnes à peu près. Et j'ai dit, Seigneur, il me faut quelque chose de plus grand et plus central. Alors, je suis allé à chaque agent. J'ai fait toutes les agences immobilières de Toulouse. Alors, chacun dit, non, nous n'avons rien. Non. Alors, entre-temps, le Seigneur m'a dit, un jour, va voir la femme la plus riche, ou la personne la plus riche de Toulouse. Alors, et donne ton témoignage à cette personne. Alors, j'avais appris que la personne la plus riche de Toulouse était une femme qui était propriétaire de 3 cinémas. Alors, elle avait son bureau dans un. Alors, un jour, j'ai mis mon meilleur costume et je suis parti pour la voir. Vous me dites, est-ce que vous n'avez pas eu un peu, est-ce que vous n'êtes pas un peu nerveux? Oh. Pensez-vous, hein? Vous connaissez la lettre que Paul a écrite à Corinthe, « Je suis venu chez vous avec crainte et tremblement. » Voilà, ça c'était moi. Je suis parti avec crainte et tremblement, avec l'accent sur le tremblement. Alors, je me rappelle, j'arrive devant le cinéma, et il y avait un jeune homme là, il a dit, « Qu'est-ce que vous voulez ?» Je dis, « Je veux voir la propriétaire. À quel propos ?» C'est personnel. Personnel, oui. Mais je ne crois pas qu'elle va vous recevoir. Je dis, allez voir quand même. Hein. Bon, il a dit, c'est pas la peine. Oh, je monte, mais c'est pas la peine. Elle ne va pas vous recevoir, c'est ça que je vous le dis. Alors, il est descendu, il a dit, elle vous dit de monter. Il était tout surpris. Moi aussi. Alors, je suis monté et j'entre dans ce grand bureau. Et là, je vois devant moi une femme, cinquantaine, élégante, assise derrière un splendide bureau. Et elle me dit, asseyez-vous. Je suis assis, elle dit, qu'est-ce que je peux faire? Je dis, voilà, je suis venu pour vous parler de l'éternité, de votre âme, et ce que Christ a fait dans ma vie. Je lui ai dit comment le Seigneur m'a sauvé. Je lui ai montré comment elle pouvait être sauvée. J'ai cité des versets bibliques. Et puis finalement, j'ai dit, voilà, elle se levait de derrière son bureau. Elle est venue vers moi. Elle m'a serré la main, m'a accompagné à la porte. Elle m'a remercié d'être venue. Bon, alors je suis sorti. Et quelques temps après, peut-être 2 semaines après, j'étais en train de marcher dans la rue. Et un homme m'appelle de l'autre côté. Il a dit, « Hey, je crois que j'ai trouvé votre local. Ah. Vous avez le temps ?» Et je dis, « Voilà, même si je n'avais pas le temps, j'avais le temps. » Alors, je dis, « Oui. » Alors, il commence à marcher vers la place centrale. Ça s'appelle la place Wilson. Alors, au fur et à mesure qu'on arrive, mon cœur commence à se battre. Je dis, « Voilà. Ah, je comprends. Il va traverser la place. Il va aller loin de l'autre côté. » Et non, il s'arrête. La place Wilson, c'est là où se trouvent tous les cinémas et tous les cafés. Et toute la vie de Toulouse était autour de cette place. Alors, tout d'un coup, il dit, c'est ici. Alors, mais c'était carrément sur la place. On monte et j'entre dans un local à peu près cette longueur-là. Et dès que je suis entré, le Seigneur a dit, c'est ici. C'est ton local ici. Merci. Oui, mais maintenant, il a dit, voilà, l'homme, il veut vous le louer. Et le loyer était 3 fois nos offrandes. Alors je dis, Seigneur, si tu... Oui, je pourrai. Bon, d'accord. Alors, je dis, voilà, je vais le louer. Je le vois quelques jours après, il me dit, écoutez, monsieur, je regrette beaucoup, mais... Le monsieur ne veut pas louer maintenant, il veut vendre. Mais toi, qui es un Américain, tu as beaucoup d'argent, il n'y a aucun problème. Alors j'ai dit, oui, un grand problème. Hein, oui. Bon, mais je n'ai pas dit à quel point ce problème était grand. Alors, il m'a cité un prix astronomique. Ah oui. Alors j'ai dit, OK, alors je prends une option de 2 semaines. Ah, OK. Alors... Les 2 semaines, j'ai prié. Après 2 semaines, il n'y avait rien. Puis il est venu, il a dit, il y a un homme qui va l'acheter. Hein, si vous ne voulez pas, il achète. Hein. Et d'accord. Alors, quelques jours après, je le vois dans la rue. Il a dit, vous savez, cet homme ne l'a pas acheté après tout. Ah bon? Ah bien, j'ai dit, je prends une option 2 semaines. Bon, à la fin de chaque option, j'avais autant d'argent qu'avant, hein, rien. Hein. Alors, il est venu, alors la même chose est arrivée, et c'était la troisième option. Il a dit, écoutez, j'ai l'impression que vous n'avez pas de l'argent. C'était plus qu'une impression, c'était la réalité. Mais j'ai dit, voilà, il a dit, écoutez, c'est la dernière option. Hein. Alors, à ce moment, le Seigneur m'a dit, va voir cette dame-là, au cinéma. Bon, je suis rentré de nouveau. Cette fois-ci, je t'ai accueilli immédiatement. Elle a dit, qu'est-ce que vous voulez? J'ai dit, voilà, je veux acheter un local, Place Wilson, mais je n'ai pas d'argent. Ah bon? Bon, elle a dit, écoutez, je vais téléphoner à mon notaire. Elle a pris le téléphone, elle a parlé au notaire principal de la ville de Toulouse. Et elle a dit, j'ai ici un jeune homme, il va venir vous voir, accueillez-le et faites tout ce que vous pouvez faire pour lui. Merci. Il a dit, il vous attend. Bon, alors je suis allé et si ce n'était pas pour son intercession. D'abord, je n'aurais jamais pensé d'aller voir un notaire, d'une part, et deux, je ne serais jamais arrivé au notaire, il y aura trois clercs qui m'auraient dit, c'est pas la peine, retournez là où vous êtes. Mais je suis allé, et les notaires, les clercs m'ont laissé passer, et je suis arrivé dans le grand bureau du notaire qui m'a dit, qu'est-ce que vous voulez? Je dis, voilà, je veux acheter ce local, Place Wilson. Il a dit, et vous avez donc une certaine somme pour négocier, n'est-ce pas? Non. Il a dit, est-ce que je comprends bien que vous voulez acheter un local, Place Wilson, sans argent, c'est ça? J'ai dit, c'est ça. Ah, il a dit, ça complique. Alors, il a dit, voilà, ce que je vais faire. Il a dit, est-ce que vous avez quelqu'un dans votre groupe qui a une maison? Bon, je dis, peut-être. S'il est prêt à l'hypothéquer, moi, avec l'hypothèque de la salle, avec les deux hypothèques, je vous donne la totalité. Ça vous convient? Oh là là, tout ce qu'il fallait, c'est de trouver quelqu'un qui voulait hypothéquer sa maison, sachant que les paiements seraient trois fois plus élevés que les offrandes. Facile. Surtout que tous les gens qui étaient dans mon église n'étaient sauvés que quelques mois. Alors, je suis allé voir un que je savais qu'il avait une maison. Les autres, je ne savais même pas. Je dis, est-ce que vous voulez hypothéquer votre maison pour qu'on achète un local là-bas? Oh là là, il a dit, il faut que je réfléchisse. Hein? Alors, il est revenu quelques jours après, il a dit, je le ferai. Pour raccourcir l'histoire, l'heure était convenue que si je n'avais pas l'argent à midi vendredi, c'était vendu à l'autre. Il était déjà avec son argent. À 11h30, j'avais la totalité. Je l'ai donné et on est devenu propriétaire de cette salle qui est devenue vraiment le point focal de l'œuvre de Toulouse pendant des années où on a vu un petit réveil qui a démarré l'œuvre de Tarbes. Alors voilà ce que Dieu peut faire, mais il faut lui faire confiance. Miracle de pouvoir acheter un local sans rien. Mais Dieu peut le faire. Dieu peut vous demander de faire des choses que vous dites, mais ce n'est pas possible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et le jour où nous commençons, comme une église, comme des individus, de dire, Seigneur, si tu me demandes de le faire, je sais que je peux le faire parce que tu ne m'auras pas demandé sans avoir de quoi me soutenir. Dieu ne nous demande pas des choses sans pouvoir. Amen. Il y a quelque chose d'autre qui l'empêche. L'Église est mondaine. L'Église est charnelle. C'est ça le problème. Nous ne savons pas comment saisir Dieu. C'est charnel. Vous savez, quand on dit charnel, mondaine, tout de suite on pense boîte de nuit, l'impudicité, l'ivrognerie, le vol et tout ça. Non, ce n'est pas ça. C'est, pour dire dans un mot, le matérialisme et l'amour du plaisir. Ces deux choses ont saisi l'Église à tel point que l'Église est comme si était droguée, impossible de se lever et vraiment partir. Matérialisme. Je me rappelle à Toulouse, quand il y avait la Révolution à Toulouse. À ce moment-là, Révolution en Espagne, excusez-moi. Là, alors les gauchistes sont partis du pays. Et parmi tous ceux qui sont partis, pas forcément gauchistes, mais des chrétiens aussi qui ont fui le pays, qui sont arrivés à Toulouse, et ils étaient dans notre église là-bas. Et j'ai remarqué, ils sont arrivés feu et flamme pour Christ. Ce n'est pas la pauvreté, ce n'est pas la maladie, ce n'est pas la persécution qui enlève la flamme de notre vie chrétienne. C'est le matérialisme. Au contraire, dans les pays persécutés, vous trouverez des chrétiens plus enflammés que jamais. Parce que là, ils souffrent pour Christ. Ils sont prêts à payer le prix. Ici, on est amorphe. On est assis. Il n'y a rien qui bouge. Vous savez, c'est ça la différence. Alors, quelque temps après, quand ces Espagnols sont arrivés, oh, ils ont vu ces jolies machines à laver, à sécher le linge, les frigos splendides et même les voitures. Oh là là! Leur enthousiasme, leur zèle pour Christ est tombé comme Babylone, la grande, a chuté. Aujourd'hui, l'Église entière dans l'Ouest est faible. Quand je vois l'islam qui est en train de conquérir le monde, qui est prêt à faire tous les sacrifices voulus, y même suicider. Dieu ne nous demande pas de nous suicider, mais de nous livrer tout entier à lui, d'avoir la flamme. Vous savez que les premiers chrétiens étaient exactement comme les islamistes aujourd'hui avec une flamme. Vous savez qu'ils ont renversé le monde tout entier à leur temps. Ils n'avaient pas grand-chose. Ils étaient persécutés, ils étaient pauvres. Ils sont allés d'endroit en endroit, mais ils avaient Christ, une flamme. Oh, que Dieu nous donne cette flamme à l'Église aujourd'hui. Qu'on se lève en disant par la grâce de Dieu, change-moi Seigneur, donne-moi cette foi qui transporte les montagnes, aide-moi à faire ce que je ne pouvais jamais faire, que je vive par la foi et non pas par la raison humaine. Et si vous n'êtes pas sauvé aujourd'hui, je vous demande de fuir cette génération perverse, de vous convertir, de vous mettre à genoux, de crier, Seigneur, sauve-moi et donne-moi la vie éternelle. Oh, que Dieu nous réveille dans ces derniers jours. Amen.